La matinale estivale sur RCN, Hélène Ingré.
Bonjour auditrices et auditeurs de cette matinale coucou. En effet, à la star du coucou, cet oiseau qui va pondre ses œufs dans le nid d'un autre, cette matinale estivale se glisse dans Dialectique, cette excellente émission hebdomadaire le restant de l'année, animée par Lionel Courchinou, qui recevait le 2 décembre 2022, donc Frédéric Paris, qui parlait des animaux. Et d'ailleurs, cette matinale, l'intitulée est « Les animaux, trois petits points, dont le chien ». Et si vous souhaitez soutenir la cause animale, vous pouvez vous rendre au refuge d'Amance ce dimanche 8 septembre, de midi à 18h, où une grande kermesse vous est proposée.
Si je vous dis le meilleur ami de l'homme, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, à quoi pensez-vous? Vous me répondrez, bah évidemment, le chien, oui, c'est évident, notre animal à quatre pattes, notre ami, notre fidèle compagnon, celui qui ramène l'os, celui qui peut mordre, celui qui est doux, celui qui a le poil soyeux, celui qui accompagne la petite mamie aussi au quotidien, celui qui aide les personnes malvoyantes à traverser la route. Bref, le chien accompagne l'homme. Aujourd'hui, le chien fait partie intégrante de notre société occidentale. On va voir ensemble ses origines, on va voir qu'est-ce qui a fait évoluer le chien, d'où il vient même géographiquement et comment il est perçu un peu partout dans le monde. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Paris. Comment ça va, Fred?
Bah, ça va très bien, merci. Merci encore une fois de m'inviter. Je suis très content d'être là.
Alors, le chien, d'où vient ce mot déjà, chien?
Traduction canis lupus, traduction du latin, certainement. Après, comment le mot arrive, monter sur la linguistique française. Ce qui est sûr, c'est que les canidés sont là depuis très longtemps. Hein.
Et ils sont apparus où géographiquement pour la première fois?
Les canidés, leurs ancêtres les plus anciens. Apparaissent quelques millions d'années après la disparition des dinosaures. Ils étaient arboricoles, ils descendent au sol, ils vont évoluer en diverses espèces en fonction des environnements. On ne peut pas s'attarder trop longtemps sur ce passage-là.
Mais
la nature va tenter énormément d'expériences autour de ces animaux du genre très proche du canin. Le hyénodon, c'est un animal qui devait être à peu près grand, de faire à peu près 3 ou 4 mètres de longueur, avec une mâchoire qui faisait 1 mètre quasiment. Heureusement qu'on a plus ces animaux-là dans le secteur.
Les pitions, c'est ça, je sais pas si je prononce bien, mais qui était aussi un ancêtre du chien, justement, avec cette mâchoire qui était hyper puissante, et c'était un animal qui pouvait aller jusqu'à 100 kilos. Pour rivaliser avec un lion.
Il y a des animaux qui ont été très très gros à l'époque de ce qu'on appelle les géants sur Terre. C'est ce qui précède, qui suit après les dinosaures et l'apparition de mammifères de très très grande taille sur la planète Terre. Et les canidés vont, certains, du moins leurs anciens ancêtres, on ne sait pas si on utilise déjà le mot canidé à ce moment-là, mais vont avoir des tailles très très importantes.
Les borophages, les caninae, donc ces mâchoires, ça n'a rien à voir avec le chihuahua aujourd'hui. Hein.
Non, évidemment, on est sur des proportions extraordinaires. Le Rodulfus archéologique nous a livré quelques crânes qui sont absolument stupéfiants. Ces animaux vont continuer à évoluer, il va y avoir plusieurs extinctions de masse. Celui qui va survivre par la suite, c'est le loup. Le loup s'impose vite, il s'impose sur tous les territoires.
Et donc le loup, avant le loup, tu parlais de crâne. En 2018, on a retrouvé en Sibérie une tête de loup gelée de 40 cm, datant de 40 000 ans, ce qui laisse présumer que la bête faisait à peu près 2 mètres de long. Hein, donc déjà, c'était pas les mêmes loups qu'on a aujourd'hui.
Non, c'est pas étonnant. De toute façon, c'est sur ces territoires-là, 10 000 ans après, qu'on va avoir parmi les plus anciens chiens. Et ces chiens vont être absolument monstrueux aussi. Ils vont avoir... La caractéristique du chien par rapport au loup, c'est un raccourcissement du
museau,
de la mandibule inférieure et donc du crâne en général, mais un raccourcissement, mais un élargissement par contre. Le palais devient plus large, et ces chiens dont on a retrouvé les traces dans le registre archéologique sont absolument énormes.
Ils étaient mésocarnivores, c'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas uniquement que de la viande.
Alors c'est ce qui fait la spécificité du chien justement par rapport au loup, c'est que au-delà de l'archéologie, la génétique, paléogénétique ou la paléogénomie nous ont permis de savoir qu'est-ce qu'il y avait comme d'autres modifications qui étaient arrivées chez cet animal-là et qui ne permet pas d'observer l'analyse du squelette, et notamment la capacité à digérer l'amidon.
Et chez les bourrovages, ils avaient une mâchoire tellement puissante qu'on les appelait les broyeurs d'eau. Ils pouvaient broyer des os.
Oui, ben ça, se nourrir d'eau. La dentition du chien à garde, c'est une molaire très très puissante à l'arrière pour pouvoir consommer des os. Et certains animaux sauvages aujourd'hui, comme la hyène, ont des capacités de broyage phénoménales. Quoique, variété de chiens, là, j'avais vu récemment le Kangal, berger d'Anatolie, qui a près de 700 kilos au centimètre carré, c'est une mâchoire absolument effroyable.
C'est énorme. Hein. Et donc, chez le chien, donc, on retrouve, chez le loup, 99% du patrimoine génétique qu'on retrouve chez le chien, donc ils sont très très proches. Finalement, le chien, l'animal duquel il est le plus proche, c'est le loup.
Tous les chiens descendent du loup. Par contre, ce qu'on pourrait plus dire aujourd'hui, c'est que les loups d'aujourd'hui ont tous du chien. Il n'y a plus de loup pur. Avec le temps et les mélanges, et, il serait très difficile de trouver des loups à cette heure-ci et de regarder génétiquement s'ils sont tout à fait purs, ce serait impossible. Mais par contre, tous les chiens, effectivement, descendent du loup. Et cette descendance, elle se fait déjà parce que l'homme et le loup ont déjà beaucoup de points communs. Ils vivent en groupe ou seuls.
Ils ont partagé la même niche écologique pendant longtemps.
Ils ont partagé le même endroit, partagé les mêmes habitats, chassé des proies identiques, chassé des grosses proies, chassé à plusieurs. Et quand on met tout ça bout à bout, on voit que le loup, après, même habitat, même mode de chasse, mode de chasse similaire.
En concurrence pour la viande.
Une concurrence avec l'homme, pendant un temps. Et puis on peut imaginer qu'à un moment, les loups, ils sont pas si bêtes. Et on va peut-être arrêter de se casser le derrière, vu que ces hommes-là, ils se débrouillent pas mal. On va essayer de profiter de leur reste, quoi. Ça, c'est un scénario d'approche, et il y en a plusieurs, mais celui-ci qui amène, en fait, après une sorte de coopération, c'est-à-dire qu'à un moment, quand les hommes partent en chasse au néolithique, les loups se mettent en action aussi, et on est sur un fonctionnement de société hybride, c'est-à-dire que deux sociétés cohabitent, en fait, des sociétés hybrides, il y en a partout, notre corps humain est un ensemble de sociétés hybrides, d'ailleurs, il existe très peu d'espèces sur Terre qui ne sont pas en fonctionnement de société hybride. À ce moment-là, on a un exemple de société hybride, c'est-à-dire une société qui fonctionne avec deux éléments complètement différents l'un de l'autre.
L'homme qui utilise le loup pour aller à la chasse.
Alors
au final.
Là, il ne l'utilise pas, mais le loup, lui, a pris l'initiative de participer. Quoi. Alors, il y a déjà une première approche qui se fait comme ça. La suite, c'est que quand l'homme va commencer à se sédentariser,
géographiquement.
Géographiquement, mais même de manière courte, c'est-à-dire que pour une saison, pour une demi-saison, pour quelques mois, il a un impact sur l'environnement et il va, malgré lui, créer les premiers animaux domestiques. Les premiers animaux domestiques, c'est pas le chien, c'est la souris, qui va être attirée par les restes des déchets de la cueillette.
Donc, parce que souvent on entend que le chien est le premier animal domestiqué par l'homme.
Oui, domestiqué, il faut comprendre ce que ça veut dire un animal domestique.
Voilà,
c'est celui qui vit dans le domaine, dans le domus, quoi, comme on dirait. Donc pour ça, il y a des animaux qui vivent dans le domaine, mais qui ne sont pas forcément en interaction avec l'homme, direct. Voilà. Donc c'est le cas de la souris, qui va venir se rapprocher des villages et qui va squatter les habitations pour profiter des déchets de la cueillette. Il n'y a pas encore d'agriculture, mais il y a déjà des déchets qui attirent. Donc par ricochet, vous avez des rongeurs qui s'installent dans le village, donc vous avez aussi des rapaces, notamment les chouettes, qui vont venir s'installer. La chouette, c'est un animal qui est connu, on sait que ça s'installe dans les granges et tout, ça peut être une forme d'animal domestique. Le troisième qui va arriver, c'est le chat. Le chat sauvage qui va avoir aussi tendance à se rapprocher des endroits où il y a le plus de rongeurs, mais ça va être aussi le cas du renard et d'autres animaux de petite taille qui vont se rapprocher de l'habitacle de l'homme pour en profiter, quoi.
C'est vrai que ce terme de domestiqué, tu as absolument raison Frédéric, il faut bien le définir. Il y a domestiqué dans le sens vivre dans le domus, mais domestiqué là on l'entend dans le sens partager une affection, un attachement, notamment grâce à l'ocytocine. C'est-à-dire que les chiens partagent à peu près 30% d'ocytocine avec les hommes, qui font que lorsqu'un homme regarde un chien dans les yeux et le chien regarde l'homme, ils vont partager cette hormone qu'on retrouve par exemple chez la maman lorsqu'elle met au monde son bébé, etc. Donc c'est l'hormone de l'attachement peut-être qui fait la différence entre le chien et une vache ou un lapin, par exemple.
Ce qui est sûr, c'est que cette notion d'attachement, elle arrive, elle est quand même assez tardive. Au début, le chien est un animal qui accompagne, c'est un animal qui a des utilisations, et une de ces utilisations, c'est la consommation. Donc, ce lien affectif, il existe, mais pour être celui que nous, on connaît maintenant... Il va falloir beaucoup de temps, parce que le chien va, à travers les âges, avoir des utilisations, mais surtout une image, une réputation qui n'est pas égale pour tout le monde, et qui n'est certainement pas celle qu'il a aujourd'hui.
Ah bah, ça tombe très bien que tu parles de réputation. C'est vrai que parfois, on a une réputation plutôt améliorative dans notre société. On va dire que c'est le plus fidèle compagnon, plus il y a certaines phrases, plus je connais l'homme, plus j'ai confiance en mon chien, c'est le meilleur ami de l'homme, comme je l'ai dit en préambule de cette émission, mais parfois certaines expressions avec le mot chien sont péjoratives. On parle de chien de garde, on parle d'une chienne de vie, on parle de chien de la casse, pour parler un peu plus terre à terre, et parfois quand quelqu'un en galère, on dit « ah bah il est en chien ».
Ouais, on va faire un bond en avant quand même pour se situer, mais au Moyen-Âge, le chien est entré dans les sociétés, il est le chien de garde, le chien de guerre, le chien du berger, non pas le chien de berger. La conduite des troupeaux, c'est quelque chose qui arrivera bien plus tard. Mais le chien accompagne le berger, il le protège. Mais néanmoins, le chien a une très mauvaise réputation à cette époque. Vous savez que c'est la religion cléricale, c'est le clergé qui gère un petit peu tout. Et le clergé, quand il voit le chien qui s'auto-nettoie le kiki, ou qui sont en période de chaleur, où ils sont des fois, cette image de 3-4 chiens, des fois, ça. Qui sont... Donc il avait une extrême mauvaise réputation, surtout qu'en plus, si on maltraite son chien, il s'en va. Comme je vous le dis, les chiens n'étaient pas attachés dans les enclos, il n'y avait pas de système de laisse. Les chiens, ils accompagnent les hommes et ils vont là où on les traite bien. Donc il était qualifié, le chien, de sale, de lubrique, d'infidèle, enfin il avait une très mauvaise réputation, quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, c'est que ce sont des chiens de chasse pour la plupart, qui sont les chiens des seigneurs, avec les chiens de berger et les chiens de ville, les chiens errants, mais là où ça va se jouer, c'est dans les seigneuries, où les seigneurs de château qui pratiquent la chasse beaucoup ont une affection débordante pour leurs chiens, et certains chiens même leur ont sauvé la vie, et ils souhaitent avoir leurs chiens avec eux dans leur maison. Sauf que c'est pas possible, parce que le château dispose d'une chapelle, et c'est donc un endroit sacré, et le chien a une trop mauvaise réputation pour y entrer. Alors, sous la pression des seigneurs, le clergé va recevoir une demande, et ils vont être un petit peu obligés de... Ah oui, c'est le clergé, c'est les seigneurs qui payent un petit peu, donc faut bien les écouter de temps en temps. Et sous la pression des seigneurs, on va changer la réputation, l'image du chien, on va réécrire des textes, donc le chien va devenir, effectivement, on va lui enlever toute sa mauvaise réputation, le fait qu'il était sale, lubrique, infidèle... Et on va lui en coller une autre qui va se dessiner avec le temps. Elle n'est pas tout de suite le meilleur ami de l'homme, mais ça viendra avec le temps, certainement dans la poésie romanesque du 19e. Mais on va en tout cas lui enlever cette mauvaise réputation. Et puis alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette mauvaise réputation? Parce qu'on est là, on a tout balancé sur le cochon. Parce que le cochon, avant cette période, ne faisait pas de cochonnerie.
Et pourquoi sur le cochon? Alors, j'en sais rien,
ils ont choisi celui-là, ils ont choisi cet animal-là, probablement qu'il était le plus commun, et puis celui qui pouvait, ils ont choisi le cochon, mais le cochon qui avait une excellente réputation, c'est un animal très utile.
Et ça, c'est à quelle période, ça?
Ça, on est autour du 11e siècle, on dit, 11e, 12e siècle, le cochon hérite de la réputation du chien, et le chien, lui, débarrassé de ça, peut entrer dans les salons, et c'est pour ça qu'on voit dans les films des grands chiens qui sont là au pied de la cheminée et tout, des choses qui étaient impossibles avant que la symbolique médiévale le déshabite cette mauvaise réputation. Et là, ça, on l'ignore souvent, donc on sait qu'on peut pas trop s'amuser dans les langages un petit peu grossiers, mais là le cochon a pris le dessus. Mais ouais, il y a encore des traces du chien quand on parle de, comme tu disais tout à l'heure, ces expressions là sont peut-être encore des expressions qui datent de cette période où il avait une mauvaise réputation.
Et en parlant de mauvaise réputation, on va s'octroyer une petite pause musicale et se diffuser le morceau d'Alpha Blondy qui s'appelle « Les chiens » sur RCN. Sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau d'Alpha Blondy, Les chiens. On est en compagnie de Frédéric Paris qui nous raconte un peu l'histoire et la domestication des chiens. Pour revenir sur cette histoire, alors il y a eu les Miacidés, donc jusqu'à l'Éocène, de 62 millions d'années à 33 millions d'années. Ensuite, les Carnivora, les Féliformes, les Canifornes, l'évolution des canidés de l'Éocène au Pléistocène.
Mais c'est qui les calés, lui ?
Entre 26 millions d'années et 2,6 millions d'années.
Voilà. Sauf que là, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas du tout d'homme.
Exactement, il n'y a pas d'homme, donc c'est une autre condition de vie.
La SPA n'est pas là.
Exactement, il n'y a pas ces mêmes protections. Et puis ensuite, les trois grandes familles de canidés. Alors, peut-être que je prononce mal. Esperocyoniné. C'est ça, il n'existe plus. Les borophaginés, dont on a parlé tout à l'heure avec les mâchoires impressionnantes. Ouais. Voilà, les gigantesques qui n'existent plus. Et la dernière catégorie qui existe encore, c'est les caninae et ou caninae. On peut dire les deux.
On décline caninae, puisque le renard et le loup sont deux caninae, mais ce ne sont pas des canins tous les deux. Le renard.
Exactement, voilà. Ça fait un peu la différence. Alors, il y a trois scénarii de domestication des chiens à travers l'histoire. Quels sont-ils ?
Le chien, il y a trois scénarios de domestication. Alors, pas uniquement pour le chien, mais on se demande comment l'homme a domestiqué certains animaux. Donc, il y en a Certains, c'est par la spécialisation de la chasse, comme c'est le cas pour le renne en Aquitaine, ou à la période glaciaire, ou le cheval dans le bassin parisien. On est tellement spécialisé dans la chasse de cet animal que voilà, ce qu'il en reste maintenant aujourd'hui, c'est qu'on a des sociétés qui vivent complètement dépendantes du renne et qui sont des spécialistes de sa domestication, de son élevage et tout. On parle de domestication vraiment contrôlée à partir du moment où on agit sur le contrôle des naissances chez les animaux. Parce qu'une autre façon aussi de s'approcher de la domestication, c'est le système de garde-manger. C'est-à-dire on va simplement capturer les animaux dans la nature, on va les mettre dans un enclos, et comme on n'a pas de frigo et pas de congèle, c'est mieux de les garder debout et vivants le plus longtemps possible avant de les consommer. Donc ça, il les domestique pas, hein, mais c'est une première approche pour vivre au contact de l'animal. Une autre forme qui existait et qui existe encore dans certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est en fait de rendre à la nature ce qu'on lui prend, et donc quand un petit animal, c'est pas forcément un chien, peut être recueilli, c'est le cas dans les sociétés Bushman en Afrique du Sud ou en Amazonie, où on va recueillir le petit animal, l'élever et même le nourrir au sein. On a des photos où la femme nourrit le petit chien au sein, mais c'est dans une rétribution. Le chasseur-cueilleur, jusque dans les sociétés modernes, il vit en symbiose avec son environnement, il est reconnaissant de ce que la nature lui donne, et cette adoption est une reconnaissance envers la nature. Mais c'est pas uniquement par ce cheminement-là. Il y a un autre cheminement aussi, hein, qui est celui du commensalisme, comme on l'a dit. Les souris, les chats sont arrivés. Et bien évidemment aussi les canidés. Parce que quand vous avez un village, vous avez ce qu'on appelle la distance de fuite. Donc il y a des animaux, vous êtes à 200 mètres d'eux, ils ont peur, ils s'en vont. Et celui qui est à 100 mètres, lui, il a pas peur, il reste. Donc forcément, si vous jetez quelque chose à manger, celui qui est à 100 mètres et qui a pas peur, il sera le premier à en profiter. Et ce qui se passe au bout d'un moment, ce sont tous les animaux qui ont le moins peur qui restent dans les parages, qui s'accouplent entre eux, générant des animaux encore moins craintifs, qui vont de plus en plus s'approcher de l'homme. Et ce système-là, où les animaux, profitant de la nourriture de l'homme, étant moins craintifs, se reproduisant entre eux, a favorisé peut-être le rapprochement avec l'homme et le chien.
Et l'animal.
Parce qu'à ce moment-là, déjà, pour plusieurs générations, ça va très très vite, hein, une expérience qui a été faite en Russie avec le renard argenté, en 14 générations.
Oui, en 1959.
Voilà, en 14 générations, on est passé du renard argenté, il a sélectionné les moins agressifs dans la cage, et au bout de 14 générations, c'est-à-dire 14 ans, c'est extrêmement court, le renard argenté a complètement changé de taille, de forme, de couleur de poil.
Ils bougeaient la queue,
sont devenus des petits animaux affectueux qui ne veulent que jouer et tout. C'est absolument plus rien à voir avec l'animal d'origine.
C'est fou, 14 ans, c'est... l'homme peut domestiquer les animaux à son gré, au final.
Et il ne touche à rien, c'est-à-dire dans le changement d'apparence physique, l'homme n'est responsable quasiment de rien, c'est simplement l'absence de stress, ou l'absence de stress due soit à la recherche de nourriture, soit à la prédation, qui modifie l'apparence physique de l'animal.
Alors les chiens qu'on a aujourd'hui, ils marchent plutôt sur leur coussinet, autant pour moi, alors que fut un temps, les chiens marchaient sur la moitié de leurs pattes. Donc est-ce que aussi l'évolution physique du chien se fait en fonction de ses conditions d'existence, du fait que s'il doit chasser ou pas, domestiqué ou pas.
C'était un arboricole, le chien à la base. Donc la façon de se positionner, ses pattes arrière sur le tronc, sur les branches, voilà, donc il lui a certainement fallu à un moment pour se spécialiser dans la course, parce que maintenant les chiens sont la plupart des chiens qui sont plutôt spécialisés dans le fait de se déplacer, au sol et de courir, a modifié son apparence physique. Mais là, on est encore sur des modifications qui sont dues à la nature, à l'évolution de l'animal dans la nature. La main de l'homme n'a rien à voir là-dedans. Nous, on arrive bien plus tard, quoi. La domestication, elle change l'apparence, donc la couleur du poil, les oreilles tombantes, pas uniquement chez le chien, mais aussi chez les cochons, chez les lapins. Quand on va les domestiquer, ils vont avoir ces attitudes-là. Le poil, il change. Le chien, il se met à aboyer. Ça aussi, alors ça, c'est pas l'étude des squelettes qui l'a permis, mais en regardant de plus près, on s'est aperçu aussi que la façon de communiquer a s'est modifiée aussi. Et dans l'ensemble, en fait, le chien devient un animal hyper préparé, adapté à l'homme. C'est-à-dire que son interaction avec l'homme, une fois qu'il va entrer en interaction avec l'homme, il va rien se passer sur le plan géologique. il va rien se passer sur le plan évolutionnaire au niveau des techniques ou de boom de naissance et tout sur le plan de l'homme. Il va rien se passer du tout. Savoir qu'on a commencé à domestiquer certains animaux à partir de moins 11 000, moins 10 000. Le chien, les premières traces, c'est moins 7 000. Ouais. Pendant 7 000 ans, qu'est-ce qu'il a fait avec l'homme? Ils ont vécu ensemble, mais il ne s'est rien passé sur le plan écologique, sur le plan de l'évolution de l'homme. Par contre, tout s'est passé dans le chien.
Il y a un chien qu'on a retrouvé, qu'on appelait Dogor, parce qu'il datait de entre ces deux époques-là, entre l'évolution du loup au chien, et on ne sait pas trop si c'est un loup ou un chien. Donc, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé justement avant, avant ces 7000 ans-là, s'il y a eu une race un peu hybride entre le loup, le chien?
Il y a eu, c'est une modification de l'allure du loup. Après, est-ce qu'il y a eu des croisements? Oui, il y a eu certainement des croisements parce qu'on a des traces de chiens de petite taille qui sont assez, très anciennes. Très anciennes, hein, autour de moins 15 000, moins 16 000, moins 17 000, on a des chiens de petite taille. Donc l'homme a peut-être effectué des croisements, on peut y penser, hein, parce qu'il ne faut pas être bête, hein, vous savez. Quand vous vous rendez compte que bon ben tiens cet animal quand il est là on a moins de prédateurs, on a plus de serpents, voilà, donc il a une utilité. Je sais plus ce que je disais, pourquoi je disais ça.
On parlait de cet aspect de l'évolution là entre le loup et chien.
Et ça, cette promiscuité, cette interaction qu'il va avoir les deux va avoir un impact sur le physique du chien. C'est-à-dire à partir du moment où vous prenez un loup, il n'a plus besoin de courir des kilomètres pour chasser, il n'a plus besoin de faire des formidables efforts, il n'a plus besoin d'être en meute pour assurer sa nourriture, sa subsistance. Forcément, il va se passer des choses physiologiquement, physiquement, il se passe beaucoup de choses. On a dit la tête, la taille, elle rapetissit, la boîte crânienne, elle rapetissit, l'apparence physique, elle change. Il développe une capacité à se nourrir de céréales, de pain, d'amidon, alors que le loup ne pourra pas, le loup ne peut pas. Et tout ça, ça se fait très très lentement, en parallèle au lien. Que commence à développer l'homme parce qu'on a des traces aussi très anciennes de liens d'attachement affectif, hein, des tombes où on retrouve la personne enterrée avec la main posée sur le squelette de son petit chien. Donc là, on a vraiment une preuve dans le contexte archéologique qu'il y a un lien étroit entre l'homme et le chien. Bien que dans son utilisation là, ancienne, jusque dans l'Antiquité, le chien soit consommé. Il est affectué, aussi une réserve de.
On va en parler de la consommation du chien, pourquoi on ne mange plus de chien aujourd'hui. Mais avant, c'est vrai que les chiens présentent aujourd'hui une variété exceptionnelle de formes, hein, alors qu'ils descendent tous, on vient de le voir, du même ancêtre, le loup gris. Et donc, cette variabilité, comme tu l'as dit, hein, elle est récente. Elle est liée aussi aux sélections, hein, de l'homme, hein, là où la main de l'homme intervient. Sélection très, très intensive, menée globalement sur les 200 dernières années. Aujourd'hui, on va répertorier près de 400 races à peu près de chiens, en tout cas reconnues par la Fédération Cynologique Internationale. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme différence aujourd'hui entre les chiens?
Il faut d'abord faire une différence entre les différenciations de chiens et les races de chiens. On a des chiens de différentes tailles et de différents types depuis très très longtemps. Mais ce sont des différences. Les très très anciens types de chiens, les mastifs, tout ce qui est mastif, le charpei, c'est une variété de chiens mastifs qui est très très ancienne, utilisée dans l'Antiquité pour la guerre et pour certains combats dans les jeux du cirque. Tout ce qui est spitz, chocho, husky, tout ça, ça aussi ce sont des races très anciennes. C'est un type de chien, on va parler de ce type-là, donc le type mastif, le type spitz avec la queue recourbée, le type lévrier, le sloggy, ça aussi c'est des races qui sont très anciennes. Et sur...
avec les crânes allongés.
Voilà. Ensuite, le plus dernier, ce sera un peu le type braque, le chien de chasse, qui est arrivé plus, ce type de chien un peu plus récemment. Mais là, on a 4 différenciations de chiens, et sur ces 4 différenciations vont s'écouler des différentes races, chez les mastifs, entre le carlin, le bulldog français, le bulldog anglais, le dog de Bordeaux, canet corso et tout, enfin il y a une quantité de chiens. Alors là on est sur des races, et ces races, effectivement, elles ont été développées à partir du 17e, 18e siècle, où on a commencé, voilà. Sinon, l'ensemble des races de chiens, la plupart, elles ont à peine 100 ans, à peine plus de 100 ans. Quoi. Mais il y a ces différenciations. Et l'utilisation du chien, on a parlé de sa consommation, évidemment, l'utilisation dans la guerre, bien dû pour garder aussi les propriétés, ça, les mecs se sont rendus compte que ça pouvait être très utile. Une consommation, effectivement, qui va s'arrêter, bien sûr. Allez, le chien est consommé dans tout le monde celtique, mais une fois que le monde romain va s'emparer d'une partie du monde celtique, notamment tout le pourtour de la Méditerranée, une partie de la Gaule et tout ça, la consommation du chien va s'arrêter.
Et on va continuer tout à l'heure à parler de cette consommation du chien, mais avant on va parler d'un groupe qui ne consomme pas leur chien mais qui lui donne un maximum d'affection, un maximum d'ocytocine. C'est le groupe La Rue qui est à nous avec le morceau Le Chien. Ouais.
Je n'ai pas bien compris le sens de ton geste. Veux-tu que je quitte ta vie ou veux-tu que je reste entre nous? Est-ce que c'est fini? M'as-tu repris la laisse, la gamelle et le tapis, la médaille avec ton adresse? J'avoue que j'ai des doutes depuis que tu m'as laissé sur cette aire d'autoroute où tu m'as dit de ne pas bouger. Nous partions en vacances jusqu'à la fin du mois d'août pour le sud de la France. Dois-je vous attendre coûte que coûte? Toujours fait la fête, protégé contre tout, contre le facteur et sa casquette et tous les autres voyous. Et puis j'ai fait honneur à la dalmatienne du voisin. Elle était en chaleur le 21 du mois de juin. Que vas-tu dire aux enfants? Je sais qu'il m'aimait bien. Le chat sera content. On s'entendait moins bien. Et la belle dalmatienne, tous ces chiots orphelins. Le voisin t'a fait une scène. Je ne suis pas dalmatien. Vous les hommes, vous êtes bizarres avec vos idées sur les races. Vous inventez le mot bâtard et l'employer à la place du mot métis, pourtant parfait. On a juste croisé l'amour du mot métis, pourtant parfait. On a juste croisé l'amour. L'amour. L'amour.
Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de La Rue qui est à nous, tout doux, avec le poil soyeux, le chien. Et on parle du chien avec Frédéric Paris. On parlait juste avant de la consommation des chiens. Aujourd'hui, c'était plus du tout monnaie courante. Alors, certains vont dire c'est pour se protéger de sa culpabilité que l'homme a établi quelques catégories relationnelles avec des animaux. Hein. Ce sont des catégories d'usage. Alors, il y a les familiers domestiques proches, hein, le chat, le chien. Il y a aussi des animaux sauvages, lointains, qui n'ont pas pourtant leur place dans nos assiettes, hein, comme le chimpanzé, l'éléphant, la girafe. En général, l'homme accepte de manger du bétail, hein, bœuf, cochon, mouton, du gibier, mais on a beaucoup de sympathie pour les chiens et les chats qu'on refuse catégoriquement de mettre dans notre assiette. Est-ce que ça, c'est plutôt récent ou ça fait plusieurs années ?
La consommation du chien en Europe, pour vous donner une idée, la dernière boucherie canine ferme en Bavière, je crois, en 1900, au début des, à la fin des années 70.
Ça, c'est récent au final. Hein.
Ouais, très récent. Ce qu'il faut savoir quand même dans les sociétés où on consomme son chien, on ne consomme pas son chien. Il y a des différences qui sont faites entre les chiens de compagnie et les chiens qui sont élevés et destinés à la consommation. Ce ne sont pas des gens qui décident de se lever un matin, de mettre un coup de bâton sur la tête de leur chien et de le manger, quoi. Non, il y a des règles, il y a des protocoles dans les sociétés où on consomme son chien. On l'a consommé, comme je disais tout à l'heure, dans le monde celtique. Une fois que les Romains se sont emparés du monde celtique, la consommation du chien s'est arrêtée, qui n'a jamais reprise, parce qu'après c'est la chrétienté qui arrive derrière et qu'effectivement il n'y a pas du tout... que ce soit sur des territoires musulmans aussi, où le chien a conservé lui sa mauvaise réputation, je dirais. Donc il n'y a pas du tout non plus de consommation, quoi. Mais la consommation du chien... comme je le disais tout à l'heure, elle a été effective jusque tardivement parce que la viande reste une denrée rare. Hein, attention, hein. Et le chien est un animal qui reste assez productif. Hein.
Parmi les sociétés qui mangent encore du chien aujourd'hui, il y a la Chine qui fait partie.
Il y avait aussi le Mexique aussi, on élevait des chiens nus pour la consommation. En Chine, mais il y a aussi d'autres pays, les Indiens d'Amérique du Nord ont consommé du chien aussi.
Alors apparemment en Asie, le chien est considéré comme du bétail.
Ouais,
on le grange dans la catégorie. Donc, du coup, ça déculpabilise. Mais on a appris, il y a quand même deux ans, le 8 avril 2020, que le ministère de l'Agriculture chinois commençait à interdire la consommation de chiens dans les régions où on en mange encore. Alors, je tiens à préciser que la consommation du chien en Chine est concernée moins de 20% des Chinois dans le centre. Elle était vraiment réservée dans certaines campagnes et est restée minoritaire à tel point que, selon une enquête qui a été menée, plus de 65% des Chinois affirment n'avoir jamais goûté aux chiens, mais bon, après, ils sont très nombreux, vous direz, donc forcément,
il y a
le
aussi
reste...
Beaucoup de plats en Chine, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se mangent. Moi, je suis pas... Enfin, je pense que les années Covid ont braqué les caméras sur la Chine et peut-être qu'elles traînent un peu ça comme un caillou dans le pied en termes d'image. Donc, cette mesure a été peut-être mise en place pour essayer de donner... une image d'une Chine un petit peu plus moderne, quoi.
Un peu comme un coup de communication, quoi.
Oui, voilà, quoi. Après, si on a enlevé cet apport de viande à ces populations-là, j'espère qu'il a pu être remplacé par autre chose. Parce que leur interdire de se nourrir, c'est quand même interdire les gens de se nourrir. Après, j'ai une sympathie forcée pour le chien. Hein. Je suis pas contre la consommation du chien, pas du tout, mais enfin bon. Je pense que c'est plutôt une histoire d'image, quoi.
D'après l'ONG américaine de défense, pour en terminer là, des animaux Human Society International, 10 millions de chiens sont tués chaque année pour leur viande et 4 millions de chats sur un total respectivement de 30 millions à 10 millions. Donc ça, c'était en Chine, hein, mais à travers le monde, c'est 30 millions à 10 millions de chiens. Il n'existe pas à ce jour d'élevage de chiens avéré et reconnu. Les animaux vendus sont généralement des animaux volés ou des animaux errants.
Oui, alors, bon, c'est... comme je disais tout à l'heure, il y a des sociétés où on fait bien la différence entre les chiens d'élevage et nous, donc ce phénomène d'élevage et de chiens repérés pour être consommés, il existe. C'est très difficile de garantir à des clients au petit bonheur de la chance, si j'arrive à voler un chien, vous aurez à manger ce soir, quoi. Je pense que non, il y a des élevages avérés, enfin bon, voilà, après je suis jamais allé là-bas, mais... c'est plutôt un problème d'image pour la Chine. Elle traîne ça comme un caillou dans le pied et voudrait certainement se débarrasser de ces images qu'on peut encore récupérer sur son territoire de la consommation du chien. C'est vrai que nous, en Europe, bon, comme je l'ai dit, ça s'est arrêté très tardivement. C'était une des dernières boucheries canines, mais la dernière a fermé à la fin des années 70, quoi. Le chien, là tout à l'heure on écoutait Fab Blondy qui parle du chien. Le chien, ce qu'on connaît nous, ce sont beaucoup de races de chiens, beaucoup de variétés de chiens, mais 80% des chiens dans le monde sont des chiens de village. Hein, j'en ai deux chez moi, parce que c'est là. Donc
alors, c'est quel, ils ont quoi comme.
C'est moche comme tout, c'est 40 cm de haut, c'est jaune-brun, c'est pas forcément un poil très
soyeux. Attention, on va parler pire dans le micro, ouais.
Voilà, ouais, c'est jaune-brun, c'est pas forcément très beau, mais c'est très intelligent, ça c'est très malin.
Comment ils s'appellent ces chiens?
J'en ai un qui s'appelle London et puis un autre qui s'appelle Pampan.
Alors, ça aussi, les noms des chiens, comment on les choisit?
Je crois que dans les pédigrés, tout ça, c'est l'année du L, l'année du D et tout. Enfin, bon, moi, personnellement, j'ai pas des chiens de pédigrés. Donc, je donne un nom qui a un sens par rapport à ma vie. C'est-à-dire, London, elle est là. Je l'ai adopté 3 semaines après avoir fait Noël avec une partie de la famille qui habite à Londres. Et c'était super, un super Noël. Donc, en souvenir, j'ai appelé ce chien London. Donc, quand je l'appelle, je pense toujours à ce moment-là. Pampan, par contre, je l'ai adopté. Il avait déjà ce nom. Ça me faisait rire. Donc, je n'avais pas l'intérêt de le changer pour l'appeler Turbo, Magnum ou je ne sais pas quoi. Pampan, c'était très bien.
Et on va parler de l'influence du chien sur la société. Là, tu parlais du fait que, voilà, tes chiens, ils sont, tu es attaché à eux. Donc, quelle est l'influence du chien? Qu'est-ce que le chien apporte de plus à une société humaine aujourd'hui?
Aujourd'hui, le problème du chien, c'est qu'il est à la fois extrêmement utile. Ses applications, elles sont formidables. Vous avez des chiens qui peuvent faire des trucs extraordinaires. Je regarde encore une vidéo où le chien conduisait une voiture. Contraire, c'est qu'on prend le temps de s'occuper d'un chien. On peut faire des choses formidables avec son rôle dans la société et son multiple. Il a déjà vocation à tenir compagnie. C'est à la fois un bien et un mal, parce que le problème de notre société actuelle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animaux, que beaucoup de gens maintenant adoptent des chiens un peu pour l'objet, et non plus pour l'animal, c'est-à-dire qu'apprendre un chien pour panier, promenade, croquette, et ne rien faire d'autre avec, et ben c'est quand même un peu juste. Il faut lui proposer quelque chose. En fait, le chien, comme je disais tout à l'heure, il a évolué tout le temps qu'il a passé à côté de l'homme depuis ces 20 000 dernières années. C'est lui qui a évolué. Le chien est devenu une sorte d'ordinateur ultra perfectionné si on le compare à d'autres animaux qui sont en contact avec l'homme. Et bien souvent, les gens vont prendre un chien chez eux, mais ils ne sauraient pas se servir d'un boulier chinois, vous voyez. Donc ils vont craquer le programme. Et c'est pour ça que dans la société, le chien est une des trois questions. Moi, j'ai proposé cette émission parce que je me rappelle que quand j'avais 15 ans, j'habitais à la Tomblaine, j'étais un petit voyageur, et je savais ce que c'était une motocrotte. C'est parce qu'à Paris, il y avait des problèmes dans cette grande ville-là, et qu'on en entendait parler jusque-là, alors qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux quand j'avais 15 ans et tout. Mais, donc c'est vraiment, dans le milieu scientifique, c'est pareil, une des 3-4 questions qui fait débat en permanence. Le chien, il a eu, on le regarde d'un œil extraordinaire, c'est des sauveteurs. Voilà. Et puis en même temps, pendant très longtemps, il a eu une très mauvaise réputation avec les chiens de catégorie C, les catégories A, ou je ne sais plus, et ces chiens qui deviennent dangereux, les histoires de combat de chiens. Ça s'est calmé, voilà. Maintenant, on a un autre problème, c'est qu'on a un phénomène de mode où tout certaines variétés de chiens, notamment les chiens des pays asiatiques. Et la dernière fois, je lisais une étude en rapport à ça, justement, sur l'accidentologie liée aux chiens. Souvent, les gens adoptent un chien sans connaître la psychologie du chien, notamment sur des chiens de meute, des chiens de traîneau, des chiens dont je parlais d'origine asiatique. Donc, quand on a déjà vu des Asiatiques se dire bonjour après 10 ans, c'est pas censé être vu, ils se regardent, ils sourient, mais ils se touchent pas. Donc, ce sont pas des chiens qui sont habitués à avoir des câlins et tout ça. Et bien souvent, les gens ne comprennent pas la psychologie du chien. Et bien souvent, ils sont pas conscients de la puissance qu'ils ont au bout de la laisse.
Donc là, on entre malgré soi dans une forme de maltraitance du chien. On ne le traite pas comme il est habitué à être traité.
Souvent, on a l'exemple là, un jeune couple ou une dame, elle adopte un petit chien, elle est très contente de lui, elle veut le protéger. Donc le protéger, ça veut déjà dire l'empêcher d'aller vers les autres chiens. Mais quand on fait ça, on coupe le système social. On coupe le fil qui fait du chien un animal sociable. Et une fois qu'on lui a enseigné cette intolérance envers les autres, eh ben c'est foutu. Il aboiera tout le temps quand il croisera un autre chien, et puis ce sera encore bien s'il aboie pas après les gens. Moi j'ai vu des gens interdire les gens, d'autres personnes de caresser leur chien, donc le chien génère un sentiment d'intolérance avec les gens, puis un jour il est étonné que son chien ait arraché le bras de quelqu'un. Je dis bah oui, mais ça a joué à un jeu qui était particulier, tu as voulu avoir ton chien exclusivement pour toi, sauf que tu vis dans la société, t'es au milieu des gens et que ton chien, c'est un animal sociable par-dessus tout.
C'est pour une question qu'on est en lien fondamentale avec qu'on va approfondir là dans quelques secondes. Et un chien, justement, dont les gens se méfient par réputation, c'est le pitbull. Mmh. Et le pitbull, Booba en parle dans ce morceau qu'on écoute tout de suite.
Frère Excalibur de son oncle, mon 6-45, je suis le pitch, j'm'en avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, choco PN, salle noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière, sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein. M'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. On m'a dit, tu as la rage, dégage, je te pique, femelle en chaleur, elle se part dans les pages. Je te nique, j'ai grandi, je suis mort en silence. Crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Lyriciste agréé, pour ça que Dieu m'a créé. Si, si, ambiance pendue, ambiance Mississippi. Je me déchaîne, au microphone c'est l'Amazonie. Des indigènes dans les chromosomes, les cités d'or, ma terre promise. Enlevé, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. J'en suis où j'en suis malgré tellement d'erreurs. Je suis trop en avance pour leur demander l'heure. Pas à pas de pied ferme sans savoir où je vais. J'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvée. Devant les profs, je faisais des grimaces en tirant sur mon ouinge. Car on m'a dit en classe que l'homme venait du singe. B2O, BA, la vie.
Toujours sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Booba, Pitbull, sur un sample de Mistral Gagnant de Renaud. Booba qui nous parle de sa vie de chien, comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Et on est avec Frédéric Paris, on parle du chien. Est-ce le meilleur ami de l'homme? On parle de son évolution, de son histoire et de sa place dans la société, mais aussi des craintes qu'il génère encore aujourd'hui sur... certaines réputations. Quand on prend les sociétés africaines, par exemple, on sait qu'en Afrique du Sud, pendant longtemps, les chiens ont été dressés, utilisés pour mordre, pour entre guillemets chasser les personnes de peau noire. Dans des pays d'Afrique de l'Ouest, le chien est utilisé comme un chien de garde, avec ses fameuses pancartes « Attention, chien méchant », où le chien est dressé pour attaquer, pour protéger en cas d'invasion de voleurs ou de malfaiteurs. Est-ce que ces usages du chien-là sont nocifs? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, en dehors de ça, génère la peur du chien?
Le besoin de protéger ses biens s'est révélé très tôt. Donc le chien est devenu un outil de garde très rapidement. Tant qu'il est à l'intérieur de l'espace qu'il doit garder, qu'il n'en sort pas, tout va bien. Le souci, c'est que certains ont estimé que c'était assez sympa de se trimballer avec des chiens qui avaient l'air féroces. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, souvent les gens ne mesurent pas la puissance qu'ils ont au bout de la laisse. Moi, en termes de réputation, il n'y a pas de chien le plus dangereux que les autres. En fait, le chien qui morde le plus s'avère être des chiens extrêmement communs. Évidemment, ils sont très répandus, donc c'est peut-être pour ça qu'ils mordent le plus. Mais les attaques de chiens... les attaques sur personne se passent souvent dans le cadre de chiens en laisse qui se battent entre eux, où les gens vont chercher à les séparer et là ils vont se faire mordre. Il y a plus de chiens en laisse ou accompagnés qui mordent que de chiens seuls. Mmh. Enfin, ce sont les études que j'ai regardées. Il n'y a pas de profil de chien plus dangereux qu'un autre. Mmh. Une petite fille qui va se mettre accroupie pour caresser un caniche ou un teckel, si le chien la mord, eh ben, ce sera sûrement au visage. Elle sera certainement très... Ben là, elle peut être blessée et défigurée.
Peut-être que la différence, c'est sur la taille du chien et la capacité de sa mâchoire à... la puissance de sa mâchoire.
La puissance de sa mâchoire, mais c'est pas que ça. C'est surtout comment le chien est éduqué. Parce que si on a un chien qui est potentiellement dangereux, il ne faut pas chercher. Hein, il faut mettre une muselière. Moi, on m'a dit dernièrement, j'expliquais que ce chien se jette sur les autres chiens. Même quand il est en laisse, surtout quand il est en laisse, on va dire, mais c'est dans son caractère. D'accord, si c'est dans son caractère, ok, mais il faut quand même se prémunir et mettre une muselière. Je te mets une grande gifle, tu crois dans la rue, je te mets une gifle, tu vas avoir envie de mettre une gifle. Donc le chien, s'il saute sur un autre chien, l'autre chien va avoir envie de le mordre.
Justement, pourquoi parfois les chiens, quand ils se croisent, ils s'aboient l'un sur l'autre
Les gens comprennent pas trop le système d'immédiateté chez les chiens. Vous avez un chien qui est à 400 mètres de vous, il est pas à côté de vous, il est pas près de vous. Mais pour le chien, vous êtes près de lui. Son odeur fait que vous êtes là. Les chiens se repèrent et captent déjà les odeurs. Et quand un chien a capté une odeur, vous êtes là, vous êtes dans son présent. Et les gens qui ont des chiens dans un même quartier, les chiens se sont déjà sentis, les gens les empêchent d'aller vers les uns vers les autres souvent, ou quand ils le font, c'est très intelligent, les chiens peuvent devenir sympathiques entre eux, mais les chiens, vous êtes dans leur présent alors que le chien n'est même pas visible pour vous, vous voyez, c'est pour ça que je me fais surprendre tous les soirs par le chien de ma voisine qui est sous le balcon et qui aboie une seconde avant que j'arrive et qui me surprend à chaque fois parce que j'arrive pas à le caler avant que lui me cale, quoi. Mais il me sent arriver, il m'entend arriver, et l'immédiateté n'est pas la même chez le chien que chez l'homme, quoi. Et bien souvent les gens n'y portent pas attention, quoi.
Donc deux chiens qui se croisent, il vaut mieux les tenir en laisse, mais les laisser quand même aller se rencontrer, même s'ils
aboient. S'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas d'animosité, il faut faire ça, parce que le chien est un animal social par-dessus tout, quoi. Le couper de ces relations là c'est quand même, vous imaginez, je ferais la même chose, je sais pas, avec n'importe qui. Je me vais en ville avec lui, je lui interdis de discuter avec les autres, je le tire en arrière à chaque fois que quelqu'un s'approche de lui. Enfin bon, imaginez comment dans la tête de la personne, à un moment, ça devient casse-pied. Pour le chien, c'est la même chose. Il n'y a pas de profil de chien plus dangereux que les autres. Les pitbulls sont peut-être spectaculaires, ont hérité d'une réputation sortie des States, mais non, ce sont pour des mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres, en gros. Si on ne prend pas soin d'un chien, si on ne lui apprend pas ce que c'est que l'affection et la confiance, forcément, quel que soit le chien, il sera dangereux. Et souvent, dans les morsures, ce sont des chiens tout à fait banals, des chiens de petite taille qui vont mordre des enfants au visage, puis se baissent pour là où qu'il est mordre à la main. Des chiens très courants, Golden Retrievers, Labrador ici, qui vont mordre. Souvent, dans le cas où le chien est fatigué, et il va être agacé par quelque chose, soit un enfant, soit quelqu'un qui l'embête et tout. C'est pas 100% des morsures où le chien se lève et dit tiens, je vais aller mordre quelqu'un parce que c'est dans mon état d'esprit. Souvent, le chien répond par une réaction de fatigue. Et ça, il faut anticiper, quoi. Déjà, savoir quand le chien, il revient d'une longue balade, faut pas que le gamin saute dessus comme ça pendant 3 heures.
Et parfois, on peut croiser des mamans ou des papas qui protègent.
Je le vois très très souvent. Moi, j'ai une collègue qui a un certain âge. Je fais waf derrière. Elle serait capable de sauter sur un capot de voiture. Elle est pas capable de me dire pourquoi elle a peur, mais elle se rappelle parfaitement quand elle était jeune que sa mère lui disait attention, il y a un chien. Et souvent, je vois ça. Donc, c'est une maman qui a du mal à contrôler son gamin, qui est là, qui arrive pas à le faire revenir. Hop, il y a un chien qui arrive dans les parages au bout d'une laisse ou sans laisse. Et là, elle va lui dire attention, le chien. Et le gamin, elle va reprendre un peu de contrôle. Alors, c'est pas bête dans le fond, mais au final, à la fin, ça inculque la peur du chien au gamin. Et c'est souvent encore pour ça que, même ici, en France, souvent, on a des enfants qui ont peur des chiens, mais une peur panique.
Une phobie.
Parce que c'est souvent les parents qui leur ont enseigné. Ils n'ont jamais été mordus par un chien ou quoi que ce soit, mais les parents, depuis des années, leur disent « Attention, le chien, il va te manger. Attention, le chien, il va te mordre. » À chaque fois qu'il y en a un qui apparaît, et donc... Il y a une panique comme ça.
Alors Fred, pour terminer cette émission, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'on a un mot pour conclure sur le chien ? Est-ce le meilleur ami de l'homme ?
C'est le meilleur ami et c'est le plus ancien. C'est un réconfort, un compagnon et une source de fidélité sans norme. Il n'y a pas... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants qui peuvent apporter ce qu'apporte un chien à un homme quand les deux...
Interagissent.
S'aiment. Parce que le chien, au final, le résultat, c'est de l'affection, c'est de l'amour, quoi.
C'est de l'ocytocine.
C'est cette statue d'un chien chinois, japonais, qui va encore aller chercher sur le quai son maître des années après que son maître soit mort et tout. Et donc, c'est une fidélité, un exemple d'une fidélité et de courage aussi, parce que le chien, il n'hésitera jamais à se faire tuer pour son propre maître. Donc, effectivement, c'est une des plus belles choses qui est arrivée à l'homme, de rencontrer le chien.
Merci beaucoup Frédéric Paris.
Merci à Lionel Courchinou, l'animateur de l'émission Dialectique, dont cette matinale intitulée « Les animaux dont le chien s'est largement inspiré ». Et si vous souhaitez soutenir la cause animale, et notamment la Société Lorraine de Protection des Animaux, la SLPA, eh bien vous pouvez vous rendre ce dimanche 8 septembre de midi à 18h au refuge d'Amance. Et merci, bien sûr, à Jean-Luc Carle pour la mise en onde de cette matinale. À bientôt dans une prochaine matinale. Belle journée à vous.